Bon début de soirée tout le monde et bienvenue à cette édition un peu spéciale des amateurs de sport. Spécial début de saison de la Ligue nationale de hockey canadien contre Leafs demain. Ron Fournier, Mario Tremblay et Philippe Quentin seront avec nous en studio de 19h à 20h. Mais d'abord et pour une première fois dans nos studios, le président et le propriétaire des Canadiens de Montréal, Jeff Molson, que j'ai accueilli ici hier matin, tout juste après l'annonce du fait que Shea Weber allait devenir le 30e capitaine de l'histoire de l'équipe. Voici ce que ça donne. Bonjour, Jeff.
Bonjour.
Grosse nomination.
Oui, c'est une grosse nouvelle aujourd'hui, puis on est très content avec la nomination de Shea Weber. C'est un grand leader en général, mais c'est aussi le leader sur l'équipe présentement. Et je pense que nous allons entendre les autres joueurs sur l'équipe, comment il est important, puis comment il joue un rôle de leadership.
Quel est votre, comment dirais-je, votre indice d'optimisme? Vous êtes un homme optimiste, d'ailleurs.
Ouais, je suis toujours optimiste avec notre équipe, mais c'était une été très longue. Ça a terminé trop tôt la saison, puis il y avait beaucoup de changements qu'on a vécu pendant l'été, dont on est très fiers maintenant. Quand je regarde la pré-saison qu'on a eue, je vois un nouveau air de positivité, non seulement sur la glace, mais hors de la glace. Tout le monde est venu pour travailler cette année et tout le monde a très hâte d'embarquer sur la glace pour le premier match contre Toronto à Toronto demain soir. Et moi aussi, je suis toujours très nerveux au début de la saison parce que c'est tellement important de bien commencer une saison. Mais si je regarde la pré-saison, ça me donne confiance que c'est un nouveau groupe qui va performer pour nos partisans cette année.
Est-ce que tu as souffert de voir l'image de l'équipe comme être affectée de cette façon-là, tout en pouvant pas toujours communiquer aux gens qu'est-ce qui va pas quand tu le sais très bien ce qui va pas?
Ouais, c'est toujours difficile de traverser des périodes difficiles. Quand une équipe qui est tellement importante pour nos partisans comme les Canadiens ne performe pas bien, tout le monde est déçu. Et c'est une tempête. C'est une tempête à court terme. Mais moi, je vois ça comme une opportunité à long terme aussi. Et nous avons passé beaucoup de temps pendant le printemps et à exécuter pendant l'été pour amener plus de confiance à nos partisans, pour améliorer l'expérience de nos partisans au Centre Bell et pour leur donner de l'espoir, de redonner de l'espoir. Et ce septembre, c'est juste le début, mais je dois admettre que je commence à le voir avec nos partisans, puis même dans les médias, des gens qui se disent « ouais, peut-être c'est pas une équipe qui est aussi pire qu'on pensait pendant l'été ». Et moi, je le vois comme ça, et on va continuer à travailler pour gagner.
As-tu l'impression que le pire est derrière, qu'on a touché le fond pour rebondir?
Je dirais que oui. C'est difficile parce qu'on a beaucoup de bons joueurs qui étaient sur l'équipe l'année passée, qui sont encore sur l'équipe cette année. Et ça fait partie d'un noyau de joueurs qui est très, très bon. Et en plus, nous avons ajouté de la jeunesse alentour, des nouveaux coachs. Mm-hmm. Alors, je pense et j'espère que le pire est terminé. Mais on va avoir une équipe qui est jeune, avec beaucoup moins d'expérience, mais très rapide. Et personnellement, le match que j'ai vu en pré-saison contre Toronto à Montréal, ça m'a donné beaucoup de confiance parce que c'est une équipe qui va travailler très fort. Puis j'espère que nos partisans vont apprécier.
Au point de presse, de bilan de fin de saison l'an passé, Jeff, t'es arrivé avec une autorité peut-être qu'on n'avait pas vue publiquement auparavant, de dire « il va y avoir des changements, le statu quo n'est pas quelque chose d'acceptable ». Et quelques mois auparavant, tu avais aussi dit à Ron en entrevue « marque un plan et s'il fait ce qu'on veut faire, on va être correct ». As-tu l'impression que le plan que vous aviez en tête comme organisation à mi-saison l'an passé, vous avez été en mesure de l'exécuter cet été?
Il n'y a pas de question, ouais. Et ça fait longtemps qu'on discute les plans, puis après une saison très difficile, ça nous donne permission d'aller un peu plus rapidement à exécuter le plan. Et si je regarde juste au centre, je dirais pas qu'on est parmi les meilleurs de la Ligue encore, mais ça annonce bien et le futur est prometteur. On a le jeune Kotkaniemi qui, c'est sûr qu'il impressionne tout le monde, mais il y en a deux ou trois autres qui s'en viennent aussi. Puis entre-temps, on en a deux ou trois sur l'équipe présentement qui vont performer. Et ça fait partie d'un élément du plan. Mais quand je marchais ici, j'ai pensé à ce que je dirais aux partisans. C'est oui, on a passé le printemps et l'été à promettre des choses à nos partisans. Mais je pense que nous sommes rendus maintenant au point d'exécution. Et on peut toujours dire qu'on a confiance, on peut toujours dire qu'on est content avec l'équipe, mais on va le voir sur la glace. On a annoncé qu'on allait améliorer la qualité de l'expérience au Centre Bell. Là, on est rendu où nos partisans vont venir, puis c'est eux qui vont juger si on a réussi à faire ça. Et on a aussi annoncé qu'on allait travailler sur notre communication et la transparence. On est au point là où on veut prouver aux partisans qu'on va exécuter nos promesses.
Mm-hmm. Les cyniques vont toujours dire « Ah, c'est bien beau, c'est juste le camp d'entraînement. Kotkaniemi n'a pas joué un match dans la Ligue nationale. » Vous êtes conscient qu'il y a encore du scepticisme?
Oui.
Comme organisation, là.
Il faut l'accepter. C'est la réalité. Puis ça, c'est dans la vie en général. Il va toujours avoir des gens qui ne nous croient pas ou qui ne voient pas ce qu'on voit. À la fin de la journée, il faut juste continuer à exécuter notre plan et de prouver que peut-être on est sur la bonne voie maintenant.
Est-ce que le plan prévoyait de ne pas dépenser tout l'argent permis sous le plafond salarial?
Non, le plan, c'est à chaque année, c'est de dépenser pour gagner. Et si on avait une opportunité de plus dépenser pour un joueur et ça nous amène au cap salarial, au cap, on l'aurait fait, mais on ne dépense jamais de l'argent juste pour le dépenser.
Est-ce que c'est décevant de se rendre compte qu'en ce moment, peut-être que ça va changer, qu'en ce moment, les joueurs autonomes qui étaient les plus sollicités n'ont pas daigné tendre l'oreille à une offre des Canadiens de Montréal?
Oui, c'est toujours décevant quand on ne réussit pas à avoir un joueur qu'on aimerait bien avoir sur l'équipe. En même temps, quand un joueur décide de voir à travers toutes les équipes, quand il est joueur autonome, il y a 30 autres équipes qui vont travailler très fort pour les avoir. Puis il y en a seulement un qui va être satisfait parmi les 30 autres. Et cet été, on avait des espoirs, mais on n'a pas réussi. Et on va continuer à travailler pour les avoir dans le futur.
Des fois, on s'enfarge dans les mots. Peut-être que c'est le défaut des médias ou des organisations, comme je me rappelle d'un fameux plan Nord. On est revenu avec quelques élections avec ça, en ce jour d'élection. Mais dans le fond, on comprend bien qu'un plan, si on décode bien, là, il y en a toujours plusieurs plans. Il y a un plan A, B, C, D, parce que on peut pas faire ce qu'on veut non plus dans cette industrie-là, Jeff.
Non, c'est sûr. C'est beaucoup plus qu'un A, B, C, D. Je pense que ça va jusqu'à
la fin de l'alphabet.
Il faut toujours se préparer pour l'éventualité où quelque chose ne fonctionne pas.
Mm-hmm.
Ça fait partie de la job de Marc. Et je pense, moi, quand je regarde maintenant en arrière des 5 derniers mois, c'est pas mal impressionnant ce qu'on a accompli dans une période assez courte. Et je ne dis pas qu'on est sorti du bois encore, mais on peut voir maintenant comment ça va bien aller dans le futur.
Mm-hmm. On a vu plusieurs organisations réagir de façon différente dans les turbulences, c'est-à-dire de procéder à des congédiements, de changer de nom, de changer d'affiche à la limite, puis ça achète un peu la paix pour un certain temps. Tu as choisi comme chef d'entreprise une autre direction. Tu as choisi de rester avec ton groupe d'hommes de hockey. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu as encore à ce point confiance en Marc Bergevin?
Ouais, je pense que moi, je vois ça plutôt à long terme qu'à court terme. Et si on regarde à travers la Ligue nationale, on n'est pas la seule équipe qui a connu une mauvaise saison, puis qui est revenue l'année après avec beaucoup plus de performances puis de victoires. Et quand je regarde le travail que Marc fait, et non seulement Marc, mais son équipe, il est très bien entouré. Le travail est les changements qu'il apporte au sein de l'organisation sont des bons changements et des bons ajustements. Et je suis pas le seul à le croire. Je fais mes recherches aussi à travers la Ligue. Il est très respecté par les autres DG. Et pour moi, de congédier ou de faire un grand changement quand je ne crois pas que c'est mérité, cette stade-ci, ça serait une mauvaise décision. Et moi, je le vois comme quelqu'un qui est très capable, qui est très bien, a de très bonnes relations avec les autres DG à travers la Ligue et qui nous amène des gens, des joueurs qui sont capables aussi, même si on a eu une année difficile.
Mm-hmm.
Son travail est bon.
Quand tu as engagé Marc Bergevin, tu as exprimé le souhait, en devenant le président de l'organisation, qu'il ramène une culture gagnante. Est-ce que c'est plus difficile que tu pensais de ramener ça, une culture gagnante?
C'est très difficile. C'est comme une maison de cartes. Et Il y a 23 joueurs sur l'équipe qui viennent de différents pays avec de différentes personnalités. Et parfois, quand une chose ne fonctionne pas, ça peut amener l'équipe en entier dans la mauvaise direction. Et il faut, pour un gestionnaire comme Marc ou un coach comme Claude Julien et ses assistants, c'est leur responsabilité d'essayer de maintenir la maison de cartes. Mais c'est compliqué. Il y a toujours des petites choses qui peuvent nuire au succès. Mm-hmm. Et on ne peut pas toujours les communiquer non plus. On veut les communiquer, mais parfois c'est quelque chose qui est très confidentiel, qu'on ne peut pas en parler avec le public. Et ça frustre nos partisans. Et je comprends très bien que ça leur frustre parce qu'ils n'ont pas toute l'histoire, mais il faut protéger les joueurs aussi.
Mm-hmm. Ça veut-tu dire que parfois, quand tu as toutes les données de l'intérieur, là où les gens voient peut-être, il y a eu des mots durs là, d'employés, de l'incompétence ou un manque de vision ou un ego trop gros d'un dirigeant, parce que là, les gens personnalisent ça, puis là, ils se disent, ah, ben c'est lui qu'on... Il est pas capable de gérer ses joueurs vedettes, etc. Donc, dans des décisions très difficiles, dont celle d'échanger Piqué Subban, dont celle d'échanger Max Pacioretty, d'échanger celui qui a incarné l'espoir pendant plusieurs années, Alex Galchenyuk, là où les gens voient, où ils vont de propos très durs, toi, tu vois autre chose. Est-ce que Marc Bergevin va chercher une certaine admiration auprès du chef de direction que tu es dans ces gestes-là qui demandent du courage, si ce sont les bonnes décisions, bien sûr?
Non, il faut que ce soit de bonnes décisions. Et il va toujours avoir des commentaires de nos partisans qui ne sont pas entièrement en accord avec le travail qu'il fait. Il va en avoir d'autres qui sont entièrement en accord. Mais pour moi, ça fait partie de l'émotion de nos partisans. Et ils ont le droit à leur opinion. Mm-hmm. Et moi, j'aime bien écouter les opinions des autres. Et ça m'amène à une meilleure place à long terme. Mais si je sais à l'interne que même si nos partisans ont des opinions, mais moi, je vois la réalité de la façon que chaque joueur est géré et chaque joueur est développé par Marc et par son entourage. Et je pense que ça nous amène dans une bonne direction. C'est ça qui est le plus important. Et on va essayer d'expliquer autant que possible aux partisans, mais comme je disais, on ne peut pas tout faire.
Est-ce que tu t'étonnes toi-même de la différence de vision que tu peux avoir comme simple amateur et comme dirigeant de l'organisation?
Oui, je pense que la grande différence entre amateur et directeur, c'est la discipline. Et il faut avoir la discipline de ne pas être trop amateur quand tu gères une équipe de hockey. Parce que on ne peut pas gérer avec nos émotions. Il faut gérer avec les faits. Il faut gérer avec discipline. Puis le lendemain, après un mauvais match de quelqu'un sur notre équipe, je n'appelle jamais le DG pour me plaindre de la performance d'un joueur parce que c'est beaucoup plus grand que ça. C'est beaucoup plus important que ça. Puis ouais. Il faut planifier plutôt les mois et les années en avant, non pas un jour, une journée à la fois. Alors, d'avoir la discipline de ne pas être amateur quand tu prends des décisions pour l'équipe que nos partisans veulent aimer, c'est la discipline que ça prend.
Je ne sais pas si tu vas trouver ça spécial comme question, mais est-ce qu'un propriétaire peut avoir un lien d'amitié avec ses joueurs, particulièrement, généralement, les joueurs vedettes?
Je pense que le plus important que je peux donner à un joueur, c'est de toujours être là pour eux quand ils ont besoin de quelque chose. L'expression en anglais, c'est « I've got their back ». Je suis toujours là pour aider s'ils ont besoin de mon aide. Mais comme hier soir, j'ai invité tous les joueurs au Centre Bell. On a eu un événement ensemble avec leurs épouses ou conjointes et leurs enfants. Puis c'était une belle soirée. On est une grande famille des Canadiens, puis on s'est souhaité une bonne saison. Ça, c'est quelque chose qui me rapproche aux joueurs. Mais est-ce que je devrais commencer à développer des relations personnelles avec un joueur? Je pense que ça, c'est probablement quelque chose qui se fait après la retraite. Il y a des joueurs avec qui je reste en contact qui ont pris leur retraite. Et ça, c'est important pour moi aussi parce que ce sont des anciens Canadiens maintenant. Et les relations avec les anciens sont importantes pour nous aussi.
Qu'est-ce que quand on regarde des problèmes d'attitude, puis je lis pas ça uniquement à ça, là. Mais ça se peut-tu qu'un kid qui, par exemple, signe un méga contrat ou qui pense qu'il a le droit à un méga contrat, qui pense qu'il y a une amitié, une proximité avec son proprio, qu'à un moment donné, l'autorité qui lui est imposée par le DG puis le coach, peut-être que des fois, il a pas envie de s'identifier à ça, mais davantage avec le kingpin qui est le boss, qui est le propriétaire?
Ça peut se passer, mais c'est là où la discipline est importante. Parce que je ne suis pas responsable de négocier un contrat avec un joueur. Ça, c'est la responsabilité de Marc. Et le moment que je rentre dans une négociation avec un joueur, ça veut dire que c'est moi qui est responsable. Et moi, je paye Marc pour réussir à développer une équipe, puis repêcher, puis négocier des contrats avec nos joueurs. Et je dois laisser cette responsabilité avec lui. Par contre, ça se passe de temps en temps où Marc vient me voir parce qu'il veut que j'aide. Il a besoin de mon aide. Peut-être c'est que dans une négociation, il a besoin que je parle aux joueurs ou il a besoin que je parle à l'agent. Et je suis toujours là pour le supporter. Mais ça doit venir de Marc, pas de moi. Parce que le moment où moi je commence à parler à un joueur derrière le dos d'un DG, c'est pas une bonne chose pour une organisation.
Non, vraiment pas. Et je ne soupçonnais pas ou je ne suggérais pas que tu faisais des choses à l'insu de ton DG. Je parlais peut-être juste de la perception d'un joueur qui peut des fois, tu sais, quand on est un joueur vedette, on peut sentir des fois qu'on a un lien privilégié. Je sais pas quel est le lien de Ovechkin avec Ted Leonsis. Tu comprends, je pense.
Ouais,
tu comprends exactement
ce que
le sens.
Dis, puis, oui, et ça peut se passer, mais c'est...
Tu sais d'où vient cette perception-là, je pense. Hein, c'est que, tu sais, le fameux contrat de Piqué à l'époque, quand on est arrivé dans le crunch, les gens ont perçu que c'est Jeff Monson qui avait réglé ça, ce contrat-là.
Ouais, et c'est là où la perception et la réalité n'est pas le même. Et écoute, ça fait plusieurs années.
Oui.
Et c'est des moments importants dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Mais c'est à la fin de la journée, c'est Marc qui gérait tout ce dossier. Et je l'ai supporté de temps en temps. Mais à la fin de la journée, c'est lui qui doit vivre avec la décision qu'il a prise.
Le président et propriétaire des Canadiens de Montréal, Jeff Monson, est avec nous ce soir aux Amateurs de sport. La deuxième partie de l'entretien dans un instant. Bon début de soirée tout le monde et bienvenue à cette édition un peu spéciale des Amateurs de sport. Le fameux problème d'attitude, Jeff, est-ce que tu considères qu'il a été réglé? Ron Fournier, Mario Tremblay et Philippe Quentin seront avec nous en studio de 19h à 20h. Mais d'abord, et pour une première fois dans nos studios, le président et le propriétaire des Canadiens de Montréal, Jeff Monson, que j'ai accueilli ici hier matin, tout juste après l'annonce du fait que Shea Weber allait devenir le 30e capitaine de l'histoire de l'équipe. Voici ce que ça donne.
Il y avait quelque chose qui marchait pas. Il y avait
des red flags, des drapeaux rouges. Marc, il me l'a dit en entrevue en fin d'année. C'était quoi ces drapeaux rouges-là? Pouvez-vous le partager aujourd'hui?
C'est difficile à expliquer, mais la confiance n'était pas là. C'est difficile à expliquer pourquoi non plus. Et dès que ça commence à mal aller, ça va rapidement, ça se décroche. On ne peut pas vraiment en parler publiquement parce qu'on essaye de le régler à l'interne. Et on a essayé pendant toute la saison d'améliorer l'attitude. Et réponse à ta question, je pense qu'avec tous les ajustements que nous avons faits et le fait que tous nos joueurs sont tellement déçus de leur performance l'année passée, il n'y a pas de question que l'attitude globale est très, très positive maintenant. Et tout le monde a très hâte de commencer la saison. Moi, je le vois dans la façon que les joueurs se comportent, la façon qu'ils se parlent, puis la façon qu'ils parlent aux médias aussi. J'ai vraiment hâte à voir comment ça va se développer cette année.
Quand Carey a été ovationné à la fin de la saison, pour moi, ça envoyait quelque chose d'important, parce qu'à un moment donné, quand ça va mal, on peut prendre son public en grippe, on peut penser que le public nous aime pas, que le public nous apprécie pas, que l'univers est contre nous. L'as-tu pris de même?
C'était un moment important pour l'organisation. Parce qu'on entend beaucoup plus de négativité que de positivité dans une saison comme celui-là. Et on oublie, on peut oublier. Un joueur, une organisation, moi, un coach, peut oublier comment cette équipe est aimée par nos partisans et comment nos partisans veulent aimer nos joueurs et notre équipe. Et oui, ils étaient déçus et on l'a entendu dans les gradins pendant la saison, la déception. Mais à la fin de la journée, nos partisans aiment notre équipe et aiment nos joueurs. Et c'est une très petite minorité qui vont donner l'impression qu'ils ne sont pas aimés. Alors, c'était un moment important pour tout le monde.
Carey qui entame cette année un nouveau contrat. C'est le contrat le plus important de l'histoire de l'Organisation des Canadiens de Montréal. 8 années, 84 millions de dollars. Moi, j'aurais eu envie de rencontrer Carey Price personnellement, d'avoir un lunch avec, de dîner avec. avant qu'il parte pour l'été. As-tu eu cette rencontre-là avec Carey?
Ah oui, certainement. On est allé luncher ensemble, pas loin de sa maison. Puis on a passé une couple d'heures ensemble pour parler de beaucoup de choses. Il n'y a pas de question que c'est une très, très bonne personne. C'est un leader sur l'équipe et c'est quelqu'un qui veut venir cette année avec une meilleure performance. Puis, mais c'est oui, c'est important. C'est un joueur vedette dans la Ligue nationale, mais aussi c'est un joueur très, très important pour nous chez les Canadiens qui va être avec nous à long terme. Alors ça, c'est un exemple d'une relation qui est importante pour moi d'avoir pour le bien de l'organisation. Parce qu'il joue un rôle tellement important.
Mm-hmm. Tu n'as probablement pas l'occasion d'avoir ce type de rencontre-là avec tous les joueurs de l'équipe. Et pourquoi ou comment tu as décidé de dire « il faut que j'aille un lunch avec Carey »
Parce que je trouvais qu'on était rendu à un point après une saison qu'on a eue. C'était important pour moi qu'il entende de moi que je suis derrière lui et je supporte entièrement. Et c'est un joueur important sur l'équipe et on a besoin de lui. Et c'est la décision que j'ai prise. Mais ce n'est pas nécessaire que je prends un lunch avec chaque joueur, mais je croise les joueurs tout le temps. Je les texte tout le temps, pas pour mêler de leurs affaires, mais pour leur féliciter pour quelque chose ou pour assurer que l'opération s'est bien allée pour si un joueur se fait opérer quelque part. Mais juste pour répéter et faire savoir que je les suis et je suis là pour eux.
Il y a de l'enthousiasme, en tout cas en ce moment. Match numéro 1 demain contre Toronto. Tu seras sur place?
J'espère que oui, je m'en vais à New York là maintenant pour une réunion des conseils de la Ligue nationale, mais j'espère être là, sinon je serai devant la télé.
Jeff Molson était notre invité aux amateurs de sport. Merci Jeff et bonne saison encore une fois.
Merci.
Voilà, merci beaucoup à Jeff Molson. Par ailleurs, Marc Bergevin sera l'invité de Round ce soir 20h30. Quelques extraits de cette entrevue au retour des nouvelles, en plus des pronostics de Round, de Mario Tremblay et Philippe Quentin. Revenez-nous pour ce spécial début de saison.